Sur Radio Campus Tours, chers auditeurs, bienvenue si vous nous rejoignez, vous écoutez La Méridienne. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un projet de recherche interdisciplinaire financé par la région Centre-Val-de-Loire et porté par l'UMR CITER, précisément l'équipe DATE, notamment par Sylvie Servin et Amélie Robert. Donc ce projet s'intéresse aux plantations forestières de la région Centre-Val-de-Loire à partir de l'exemple des pinerais et des peupleries. Alors, pour en parler, j'ai la chance d'avoir en studio avec moi trois experts qui vont pouvoir nous parler plus en détail de ce projet. Tout d'abord, bonjour Amélie Robert.
Bonjour.
Alors, vous êtes géographe, ingénieur de recherche au laboratoire CITER et vous enseignez au département de géographie.
Tout à fait. Merci de nous accueillir.
Merci à vous de venir. Alors, je poursuis ce tour de table. Bonjour Arthur Champigny.
Bonjour.
Alors, vous consacrez votre mémoire aux représentations et aux activités récréatives et de loisirs en lien avec les plantations forestières. Et bonjour Alexis Billard.
Voilà. Bonjour.
Et donc, vous travaillez, quant à vous, sur la filière bois, donc voilà, les différents acteurs impliqués, du pépiniériste au transformateur et les usages du bois. Donc, on en entendra parler plus tard dans cette émission. Alors, peut-être tout d'abord, je me tourne vers vous, Amélie Robert. Voulez-vous nous en dire plus sur ce projet, un projet en région centre, mais qui fait suite à plusieurs projets. Alors, quel est son historique?
Oui, tout à fait. Donc, PlantaClim, maximiser les services des replantations forestières dans le contexte du changement climatique, c'est l'intitulé un peu plus long du projet, donc qui est financé effectivement par la région Centre-Val-de-Loire. Et donc, il s'inscrit en fait dans une dynamique de recherche initiée précédemment et lancée par d'autres projets antérieurs, donc où j'ai été aussi impliquée. Le premier projet, donc c'était le projet du peuplier pour l'avenir qui était porté par le CRPF, donc le Centre Régional de la Propriété Forestière. En fait, c'est l'organisme public qui conseille les propriétaires forestiers. En fait, il faut savoir qu'une grande partie des forêts françaises, et notamment en région Centre-Val-de-Loire, sont privées. Et c'est particulièrement le cas des peuplerais. Et donc, dans le cadre de ce projet qui s'intitulait du peuplier pour l'avenir, eh bien, on s'est intéressé au peuplerais et en l'occurrence donc j'étais en charge du volet recherche qui s'intitulait approche sociologique, où il s'agissait de questionner les représentations que les différents acteurs pouvaient avoir de ces peuplerais. Donc en effet, ce sont des plantations qui sont au centre de controverses et qui ont pu être critiquées par les uns et à l'inverse défendues par les autres.
Voilà, donc on en parlera plus en détail dans cette émission des conflits liés à ces peupleries. Alors, pour ce projet PlantaClim, il y a 14 structures qui sont associées. Est-ce que vous voulez nous en dire plus? C'est qui et pourquoi ces structures participent à ce projet?
Tout à fait. Donc, en fait, partant du fait qu'il y avait beaucoup de controverses autour de ces plantations, qui finalement cristallisent des enjeux un peu variés, à la fois environnementaux, économiques et également sociaux. Donc il était important d'avoir une équipe qui soit interdisciplinaire et qui s'intéresse aux différents volets qui va y avoir autour de ces plantations forestières. Donc le projet est porté par l'UMR CITER, que je représente notamment, donc où on est plutôt sur... on apporte plutôt le volet SHS, donc sciences humaines et sociales, avec notamment une implication de géographes et donc d'Alexis et Arthur. Mais il y a également donc, d'autres partenaires, donc en l'occurrence l'INRAE qui intervient parfois dans l'émission. Donc ce sont des collègues qui sont en charge plutôt de l'étude de la biodiversité floristique. Il y a également des collègues du laboratoire de biologie des ligneux et des grandes cultures qui est situé à Orléans, donc là qui se charge de l'analyse de la biodiversité en termes d'insectes, donc biodiversité faunistique. Et puis il y a également des collègues de l'Institut des sciences de la Terre d'Orléans qui, eux, vont s'intéresser à la partie sol. Donc l'idée, c'est de voir, à travers ces différentes interventions, de voir quelles sont les caractéristiques biophysiques de ces plantations. Donc qu'est-ce qu'il va y avoir en termes de biodiversité, quelles vont être les caractéristiques des sols que l'on va avoir dans ces plantations. Donc ces plantations, ce sont les peuplerets, mais là, ce sont aussi les plantations de pins maritimes. Que l'on a choisi d'étudier. J'expliquerai peut-être par la suite pourquoi ces deux espèces. Je poursuis donc les différents acteurs. Il y a également la MSH Val-de-Loire qui est impliquée dans la tâche permettant de faire un état des lieux de ces plantations. Où est-ce qu'on va les retrouver dans la région Centre-Val-de-Loire ? Donc le projet se sent effectivement dans la région. Et puis ensuite, on a 10 partenaires socio-économiques donc qui vont être des intervenants de la filière bois, des intervenants forestiers, mais également des associations plutôt de protection de l'environnement, donc qui vont porter eux un regard peut-être un peu plus critique que la filière sur ces plantations forestières. Donc l'idée, c'était vraiment d'avoir une multitude d'acteurs qui portent un regard très varié sur ces plantations pour qu'on puisse mieux comprendre les enjeux qu'il y a autour.
Alors, quelle place est donnée à chacun ? Parce que c'est, comme vous le précisez, des rôles très différents, des compétences très différentes. Comment ça s'articule ?
Alors, il y a les acteurs académiques qui, eux, vont être en charge de la partie plus recherche. Donc, chacun, selon ses spécialités, va conduire ses recherches. Donc, les collègues plutôt spécialisés sur la biodiversité floristique, par exemple, vont aller mener des relevés floristiques sur les parcelles de peuplerets que l'on a identifiées. On travaille sur les mêmes parcelles à chaque fois. Donc, ce qui permet de croiser vraiment, pour une même parcelle donnée, les caractéristiques du point de vue de la faune, de la flore, associés à ces plantations, et puis également les sols. Donc chacun, en fonction de ses spécialités, va conduire sa recherche. Et puis ensuite, avec les partenaires socio-économiques, eh bien, eux nous apportent leur regard plus pratique sur ces plantations, comment eux les gèrent, comment eux les envisagent, comment eux les analysent. Et donc ils nous apportent leur regard, on leur fait part de nos résultats de recherche et puis on échange petit à petit, on avance comme ça dans le projet en échangeant de manière régulière entre acteurs académiques et acteurs socio-économiques.
Donc en fait d'acteurs académiques, on peut citer aussi le fait que vous travaillez avec des étudiants. Donc puisqu'on en a deux dans ce studio, peut-être que vous voulez nous dire l'un et l'autre pourquoi vous avez choisi ce projet-là pour votre travail de recherche.
Moi, personnellement, je savais pas exactement ce que je voulais faire en début d'année et je trouvais que c'était intéressant de travailler dans le domaine de la culture et de lier en fait ce domaine avec les espaces forestiers. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment intéressant pour le coup.
Bah alors, faut savoir qu'on est tous les deux en formation de géographie. Donc moi, ma formation antérieure, j'avais jamais fait de la géographie auparavant. Je suis sorti d'une licence professionnelle sur la gestion de l'eau et le développement de ces territoires. Donc j'avais pas une expérience géographe, j'avais pas les mêmes sujets qui s'ouvraient à tout le monde. Du coup, on m'a proposé un sujet en lien avec Plantaclim, la forêt, donc il y a quand même un peu en lien avec ma formation précédente, et c'est un sujet qui correspondait à ce que je savais faire, donc je l'ai pris pour répondre aux besoins du projet et puis de ma formation.
Donc là, peut-être une précision, parce que vos deux étudiants expliquent qu'on leur a proposé un sujet. Donc comment ça marche ? C'est-à-dire qu'on a un mémoire de recherche à sujet imposé, ou alors on peut venir avec un sujet ? Comment ça marche en fait ?
Alors en fait, en première année de master de géographie, donc les étudiants travaillent sur un... Enfin, l'année est en fait orientée autour de ce mémoire de recherche. Et donc les enseignants leur font des propositions, mais ce sont les étudiants qui choisissent eux-mêmes leur sujet. Donc soit des sujets qu'on leur a proposés, soit c'est le sujet qu'eux-mêmes ont envie de développer. Par exemple, j'ai un étudiant qui voulait absolument travailler sur l'apiculture, donc il a construit son sujet sur l'apiculture, et puis après, il faut par contre qu'il trouve un enseignant qui accepte de l'encadrer sur cette question-là.
Donc là, peut-être l'avantage sur ce projet-là, c'est aussi de participer à une recherche qui est déjà en cours, donc d'avoir peut-être des référents tout trouvés, entre guillemets.
Oui, effectivement. Alors, donc, le sujet leur est proposé dans le cadre du projet. Donc, je leur ai proposé de s'inscrire dans une des tâches. Et après, c'est aussi à eux de s'approprier le sujet sur la manière dont ils l'envisagent. Mais effectivement, l'avantage, c'est aussi voilà, de voir un petit peu comment ça se passe la recherche, comment se passe un projet de recherche, d'être en relation aussi avec d'autres acteurs, puisqu'ils ont pu notamment être présents lors des réunions que l'on va avoir avec l'ensemble des acteurs. Donc, ils ont pu faire part de leurs premiers résultats de recherche, de la méthode qu'ils mettaient en place. Donc pour eux, ça peut aussi être un apport d'avoir des liens aussi avec des acteurs socio-économiques et avec des chercheurs en même temps.
Et d'ailleurs, il y a un étudiant qui s'appelle Mohamed Sebonou avec lequel vous avez publié un article, voilà, le peuplier qui cache un arbre qui cache la forêt, voilà, dans le revue Projet de paysage. Donc, est-ce que vous voulez nous dire un mot sur ce travail-là ?
Tout à fait. Donc, Mohamed Tebounou, je l'ai encadré de la même façon que Arthur et puis Alexis, donc en première année de master géographie à Tours. Donc, il avait choisi de travailler. J'avais proposé un sujet sur les peupleraies, donc dans le cadre du précédent projet qui s'intitulait Du peuplier pour l'avenir. Donc, il avait accepté de prendre part à. Enfin, de mener ses recherches sur ce sujet-là. Donc lui, c'était plutôt sur l'évolution des peuplerets, parce qu'il faut savoir qu'elles sont plutôt en recul. Il y a de moins en moins de replantations. Enfin, il y a eu de moins en moins de replantations. Donc c'était ce qui était constaté par la filière à l'échelle nationale. Mais la question était de savoir si on retrouvait la même chose à l'échelle locale, et puis surtout de le vérifier, parce qu'en fait, la cartographie des peuplerets n'est pas forcément très précise. Donc c'était plutôt des estimations. Donc l'idée, c'était de voir si c'était la même chose à l'échelle locale. Donc il a mené d'abord son projet, donc c'était pas en région Centre-Val-de-Loire, c'était dans la région voisine, puisque c'était en Anjou. Et puis le sujet lui a plu et donc il a poursuivi l'année suivante, donc en deuxième année de master, où les étudiants sont soit en apprentissage, soit en stage. Donc lui a fait un stage du coup dans le cadre de ce projet. Donc là c'est une implication un peu plus importante. Là par contre il doit répondre à ce qui lui est demandé dans le cadre du stage. C'est pas comme le M1 où il faut on peut s'approprier et faire un petit peu comme on le souhaite. Là par contre il faut répondre à la demande du qui est proposée dans le stage. Donc voilà, il a poursuivi sur ce sujet-là en interrogeant également des habitants. Et puis aujourd'hui il poursuit en faisant une thèse. Donc voilà, c'est aussi une perspective après par la suite. C'est sur un autre sujet, sur un autre terrain, mais voilà.
Il y a eu des séminaires aussi en 2019, donc avant l'épisode Covid. Voilà, donc par exemple, quel est l'avenir pour les plantations forestières ? Donc, est-ce que vous voulez nous expliquer ces événements, en fait, à qui ça s'adresse, comment ça se passe ?
Oui, alors en fait, ces séminaires, ils ont été organisés dans le cadre d'un autre projet dont je n'ai pas encore parlé, qui était le projet Reforester. Pour représentation et réalité des forêts plantées, donc qui était financé par la MSH Val-de-Loire. Donc dans ce cadre-là, on a organisé effectivement plusieurs séminaires qui visaient à questionner un petit peu ces forêts plantées. Donc avoir les regards des différents de différents chercheurs, de différents acteurs aussi, puisqu'il y a des acteurs socio-économiques qui sont intervenus. Il y a eu des tables rondes qui ont pu être organisées. Ce qui est ressorti notamment, c'est la nécessité peut-être de développer les recherches en sciences humaines et sociales. Il y a une demande importante de la part des acteurs forestiers qui font face notamment à certaines critiques aujourd'hui, notamment en lien avec l'exploitation forestière, et eux font le constat notamment d'une déconnexion entre la société, enfin au sein de la société, entre la forêt d'un côté et puis le bois de l'autre. Et donc pour eux, eh bien, c'est important de mieux comprendre les attentes de la société, aussi pour les intégrer. C'est aussi se remettre en cause. Donc voilà un petit peu ce qui était ressorti, une nécessité voilà, de trouver des moyens de dialoguer davantage avec les différents acteurs de la société.
Et donc nous sommes en 2022, c'est pas un scoop, mais cela dit, on est en période post-confinement au pluriel. Alors quel effet a eu là où le Covid sur ce projet Plantaclim ? Est-ce que ça l'a ralenti ?
Alors, il a été lancé justement en période Covid, effectivement. Donc, les premières réunions, ça a été un petit peu compliqué pour se voir. On a très vite développé la visio pour pouvoir organiser les réunions. Il y a eu effectivement du retard parce que les collègues impliqués avaient pris aussi du retard sur leurs précédents projets. Donc, forcément, ça a eu des répercussions sur Plantaclim. Là, maintenant, la dynamique est repartie et j'espère que ça poursuivra ainsi, mais... Voilà, on peut rencontrer des acteurs et c'est vrai que c'est important pour avoir leur regard, de pouvoir les rencontrer quand même.
Eh bien, on en sait déjà plus sur les contours de ce projet de recherche. Donc, je vous propose, chers invités et chers auditeurs, de faire une première pause musicale et on se penchera ensuite sur cette grave question. Est-ce que ces peuplerets sont des fausses forêts ou sont-elles des forêts au même titre que des forêts dites naturelles ? On va écouter Mélissa Lavo et on se retrouve tout de suite après.
Lito, tu nanito, lalito, a mi un bel lulu.
Bravo Mélissa Lavaux sur Radio Campus Tour dans la Méridienne. Alors, nous parlons du projet Plantaclim. Avec moi en studio, Amélie Robert, Arthur Champigny et Alexis Billard. Nous nous intéressons donc aux peupleries. Enfin, qu'est-ce qu'une forêt plantée en fait ? Est-ce que c'est une fausse forêt ou est-ce que c'est une vraie forêt ?
Alors, fausse forêt ou vraie forêt, je pense que chacun a un peu sa réponse. Déjà, le terme de forêt plantée, c'est un terme que j'ai utilisé au départ parce que je me suis intéressée aux forêts plantées au Vietnam. Et donc, du coup, c'était plutôt la traduction de l'anglais, en fait. Mais aujourd'hui, j'utiliserai plutôt le terme de plantation forestière pour prendre un petit peu de distance par rapport au fait que ce soit une forêt ou pas, parce qu'il y a vraiment des avis très partagés. Peut-être qu'Arthur peut nous en dire un petit peu sur les regards qu'ont porté les personnes qu'il a interrogées.
Oui, en effet, hein, les avis sont très partagés. Donc, dans le cadre de mon mémoire, j'ai pu interroger... en fait, j'ai participé à des randonnées pour interroger des randonneurs, notamment sur les services récréatifs fournis par les plantations de peupleries et de pins maritimes. Et sur une vingtaine de randonneurs que j'ai pu interroger, aucun ne considérait les peupleries, par exemple, comme une forêt à proprement parler. Pour deux raisons. Tout d'abord, leur taille. Ils considéraient que c'était des plantations qui étaient trop ponctuelles. Et également, un manque de diversité, puisque ce sont des plantations qui sont développées selon une logique productiviste pour produire du bois, et donc qui n'accueillent très peu de diversité en termes de sous-étage, mais également en termes d'essence d'arbres.
Alors sur l'aspect esthétique, peut-être répétitif, planté, en randonnion, mais enfin, ça c'est des arguments qui sont du côté des randonneurs. Donc, mais du coup, l'idée de la biodiversité, est-ce que c'est un argument qui est plutôt du côté des scientifiques, des géographes ? Les arguments pour et contre sont-ils répartis entre le public en fait ? Tout le monde n'a peut-être pas les mêmes arguments.
Oui, tout à fait. Bah, dans les représentations du grand public, c'est vrai que c'est des plantations, il y a beaucoup de termes de strict, linéaire, rideau qui cache la vue, etc., qui reviennent énormément. Alors que quand on cherche un peu plus, bah, on se rend compte que les peupleries ont des conséquences positives sur l'environnement et ont leur importance sur le territoire.
Et donc, est-ce que vous voulez nous en dire un peu plus sur ce travail de recherche ? Donc, on sait que vous avez suivi des parcours de randonnée. Comment ça se passe, en fait ? Comment on fait ? Est-ce qu'on alpague les randonneurs en chemin ? Est-ce que vous avez conçu un questionnaire ? Est-ce que vous voulez nous expliquer comment vous avez fait ce travail ?
Oui, tout à fait. Bah, j'ai d'abord conçu un questionnaire avec l'aide de Madame Robert en premier semestre. Et puis, au début du second semestre, donc au moment des entretiens, en fait, j'ai contacté en amont les différents clubs de randonnée. Donc dans le cadre du programme, on a divers sites d'études. C'est par exemple la forêt d'Orléans, forêt de Vierzon et forêt de Bourgueil pour les pins maritimes. Puis un ensemble de communes pour les peupleries. Et donc j'ai essayé de participer à des randonnées qui se développeraient à proximité de ces sites d'études. Voilà. Et puis bah, les randonneurs, toujours un grand plaisir. J'ai l'impression de vous accueillir. Donc c'est super, ça s'est fait comme ça assez naturellement. Mais je n'y suis pas allé au hasard, il y avait vraiment une prise de contact en amont.
Donc, c'est-à-dire que ce questionnaire que vous avez construit, quelle est la méthodologie ? Donc, c'est le même questionnaire pour tous les randonneurs. Combien vous avez interrogé de personnes ? Et après, qu'est-ce que vous en faites de ces questionnaires ?
Tout à fait. Alors, c'est le même questionnaire pour tous les randonneurs. Donc, j'ai interrogé à peu près 20-25 randonneurs. La grille d'entretien, donc j'ai fait une grille d'entretien, elle est développée. Alors tout d'abord, je m'intéresse à leur activité, leur représentation, leur rapport à la nature, leur rapport à l'environnement aussi, parce qu'en fait, je fais l'hypothèse que ces représentations liées à la nature, au paysage, à l'environnement, eh ben, ça va permettre de comprendre leur position vis-à-vis des peupliers et des pins maritimes. Voilà. Et ensuite, ces données, eh ben, là, je suis en train de retranscrire, ça prend un petit peu de temps. Et je commence également l'analyse. Donc pour l'analyse, je m'intéresse vraiment au sens des mots, puisque je m'intéresse aux représentations. Et donc chaque mot a son importance. Et puis j'essaye de classer les différentes représentations des différents randonneurs, puisqu'ils n'ont pas toutes les mêmes représentations. Par exemple, lorsque je suis allé à Montargis pour travailler sur les peupleries, Montargis, il faut savoir que c'est, après la Seconde Guerre mondiale, c'est une zone où les peupleries ont été implantées massivement. Et donc du coup, les randonneurs, ils n'étaient pas vraiment farouchement opposés aux peupleries, à leur implantation. Et par exemple, en Indre-et-Loire, dans les communes de Chilly, etc., une seconde randonnée à laquelle j'ai participé, là, il y avait beaucoup plus de controverses qui étaient alimentées, etc.
Voilà, donc en fait, vous pouvez mettre en évidence un changement de regard selon le contexte.
Oui, tout à fait. Selon la position, on fait des études de géographie, donc d'abord selon la position géographique des enquêtés. Et puis, il y a d'autres facteurs qui rentrent en compte, évidemment, la catégorie socio-professionnelle, l'âge. Pour les randonneurs, j'ai interrogé énormément de personnes âgées. Pour eux, c'est un moment de liberté, de convivialité, ça ressort beaucoup.
Et alors, sur ce travail recherche, il y a donc les usages du bois, attendez, je me trompe peut-être, voilà, donc il y a les activités récréatives, est-ce que vous voulez nous en dire plus, parce qu'on pense évidemment à la randonnée, mais c'est peut-être pas la seule activité qui existe dans ces bois, est-ce qu'il y a d'autres activités ?
Oui, bien sûr, il y a deux activités. Alors moi, j'ai choisi de cadrer mon mémoire sur l'activité de randonnée, mais j'ai également interrogé des chasseurs. Voilà. Parce qu'il me semblait que c'était intéressant de pouvoir comparer leurs représentations, leurs usages, aussi parce que c'est des acteurs finalement qui sont un petit peu opposés dans leurs usages et leurs représentations. Je me suis arrêté à là, mais j'aurais pu aussi interroger des pêcheurs, des naturalistes, des cueilleurs de champignons, ça aurait pu être varié.
Et donc, qu'est-ce que vous avez pu constater, par exemple, entre ces randonneurs et ces chasseurs ? Parce que c'est vrai que pour le grand public, souvent, c'est des conceptions qui ont l'air complètement opposées. Vous, est-ce qu'il y a vous avez trouvé des points communs ou vraiment réellement opposés ?
J'ai trouvé des points communs. Il y a une... Pour les chasseurs, en tout cas, tous les deux, chasseurs et randonneurs, préfèrent voir des peuplerets qui sont gérés de manière un peu moins intensive, qui sont un peu plus laissés à l'état sauvage, puisque pour eux, c'est plus associé à l'idée de nature. Et pour les chasseurs, évidemment, c'est aussi une volonté d'accueillir plus de faune, hein, de diversité, dans le cadre de leur activité de chasseur.
J'aimerais qu'on en dise un petit peu plus, donc merci à vous d'avoir présenté votre travail. J'aimerais qu'on en dise plus sur ces fameux arbres. Du coup, les peupliers, ça ressemble à quoi ? Parce que tout le monde n'est peut-être pas très calé en arbres. Et les pins, en fait, quelles sont les caractéristiques précises de ces espèces-là et pourquoi elles ont été choisies en fait, pour être plantées à tel endroit et pas à un tel autre ?
Sur ces espèces, alors leur particularité effectivement, c'est qu'on va les retrouver de manière plantée, donc plutôt en alignement, hein, que ce soit les peupliers ou les pins maritimes. Alors si on a choisi, je voulais juste revenir, si on a choisi ces deux espèces, alors c'est parce qu'elles sont présentes dans la région Centre-Val de Loire. C'est parce que aussi on se situe dans un contexte de changement climatique et notre objectif est aussi de réfléchir à qu'est-ce qu'on va avoir comme forêt demain, parce que la forêt d'aujourd'hui, eh bien, elle ne sera probablement pas celle de demain à cause du changement climatique. Donc on s'est focalisé sur ces deux espèces parce qu'elles sont fortement controversées, hein, c'est quand même celles qui ont le plus de critiques. En France, c'est rien à voir avec la forêt de feu de chêne, hein, par exemple, qui est beaucoup plus emblématique de la région. Donc le peuplier, en fait, la filière considère que cette espèce va se maintenir puisqu'elle est plantée dans les vallées, donc dans des zones humides. Et puis en plus, on la retrouve de toute façon sous des climats que l'on devrait connaître à l'avenir. Hein. On retrouve le peuplier en Italie, par exemple. Donc si on a une augmentation des températures en région Centre-Val de Loire, on pourra avoir par exemple le climat identique à celui de l'Italie, donc le peuplier en l'occurrence s'y trouve. Et c'est la même chose pour le pin maritime que l'on retrouve notamment dans les Landes, donc qui est planté sous des climats plus méridionaux, donc qui préfigure un petit peu les conditions climatiques que l'on pourrait avoir à l'avenir en région Centre-Val de Loire. Il faut aussi savoir qu'avec le changement climatique, on se tourne de plus en plus vers la plantation parce que c'est un moyen de réintroduire plus facilement des espèces. Dans un premier temps, on va favoriser plutôt la régénération spontanée, donc le développement de la forêt par elle-même, par rapport aux graines qu'il va y avoir. Et dans un second temps, si ça ne marche pas, on se tourne vers la plantation parce que voilà, ça permet de réintroduire plus facilement de la forêt. Donc on recourt uniquement à, en tout cas pour le pin maritime, qu'aujourd'hui on plante de plus en plus à cause du changement climatique, parce qu'on a des chênes qui dépérissent, on a d'autres pins qui dépérissent également à cause du changement climatique. Donc aujourd'hui, on se tourne un peu plus vers le pin maritime, qui lui résiste mieux au changement climatique. Mais si on l'introduit, si on le plante, c'est vraiment sur des surfaces où on ne peut pas faire autrement, où on n'a pas d'autre choix pour pouvoir pour pouvoir réintroduire de la forêt sur ces espaces. Donc, le choix des espèces, ça va être fonction des sols que l'on va avoir, des stations de manière plus générale, hein, donc les sols, mais aussi les conditions climatiques. Et puis, c'est aussi fonction de la demande, évidemment, de la demande en bois.
Et alors, ces idées de forêt artificielle avec plein de guillemets, ou en tout cas plantée, exploitation forestière, c'est pas une nouveauté, ça existe quand même peut-être depuis plusieurs siècles. Donc, qu'est-ce que vous aimeriez en dire ?
Effectivement, les plantations, c'est pas une nouveauté, et pas même en région Centre-Val de Loire. Hein. On a eu de grands travaux de plantation au XIXe siècle, qui ont notamment amené le pin maritime en région Centre-Val de Loire. Par exemple, il n'est pas récent. Donc c'est quelque chose de très ancien. Mais finalement, aujourd'hui, ces forêts qui ont été plantées, quand elles font partie du décor, eh bien, on a tendance à les considérer en fait, comme des forêts naturelles. Mais c'est juste de voir l'alignement qui fait que ça fait très artificiel et qui fait qu'il y a davantage de critiques. Après, on est quand même sur des espèces, que ce soit le peuplier ou le pin maritime, on est sur des espèces à croissance rapide. Le peuplier, il est exploité au bout de 20 ans. Le pin maritime, au bout de 50 ans. En plus, ils sont sur des peuplements monospécifiques, donc une seule espèce, donc ce qui ajoute aussi au caractère artificiel et ce qui explique aussi qu'il y ait ces critiques-là, parce que du coup, on a aussi des questions de biodiversité qui vont émerger.
Alors, si on finit par considérer ces plantations de pins comme naturelles, est-ce que ça veut dire aussi que l'alignement tend à disparaître ?
Pour le peuplier, non. Parce qu'en fait, on plante, on exploite ce que l'on a planté. Pour le pin maritime, c'est un peu différent. On va planter une plus forte densité d'arbres pour qu'ils puissent pousser notamment bien droit. Et puis, peu à peu, on va éliminer certains arbres. On va abaisser la densité pour permettre aux plus beaux arbres de se développer. Donc, du coup, on va perdre un petit peu l'alignement, ce qui n'est pas le cas pour le peuplier. On a vraiment cet alignement important. Donc, les peupliers dans la région Centre-Val de Loire, vous pouvez les retrouver dans les vallées. Hein, c'est assez caractéristique. Avec ces alignements, vous voyez tout de suite que ce sont des peuplerets.
Alors, il y a peut-être aussi un facteur temps qui entre en compte dans le choix des arbres, puisque vous expliquiez que telle espèce, c'est 20 ans pour être exploitable, telle autre, 50 ans. Et il y a aussi un peu le course contre la montre vis-à-vis du réchauffement climatique. Alors, du coup, comment on joue avec ce facteur-là ?
C'est effectivement la difficulté de ce changement climatique qui se fait à un rythme très rapide. Et à côté de ça, on a des forêts, je considère les forêts spontanées, hein, donc pas celles qui sont plantées, en l'occurrence les forêts de chênes, elles s'inscrivent dans un temps long, on est sur plusieurs siècles. Et même si on plante un chêne, on peut aussi planter des chênes, hein, on va le récolter dans plus de 100 ans. Donc les conditions climatiques, elles ne seront plus du tout celles que l'on a aujourd'hui. Donc c'est un gros problème pour les acteurs forestiers de pouvoir anticiper quelles seront les conditions climatiques à l'avenir. Et c'est maintenant qu'il faut décider quelle sera la forêt de demain. Pour le peuplier, c'est un peu moins embêtant. On est sur 20 ans, donc on peut s'adapter beaucoup plus facilement.
Je me tourne vers Alexis Billard. Alors, je crois que vous avez travaillé justement sur cette filière. Alors, qu'est-ce que vous aimeriez nous en dire ?
Oui, donc, en effet, dans le cadre de mon mémoire, on va dire que je réponds à la question comment se comporte la filière forêt-bois, notamment vis-à-vis du peuplier et du pin maritime. Donc, pour ça, je vais en effet m'interroger avec les acteurs, mais je vais également m'interroger à un aspect spatial, donc, c'est-à-dire la localisation de la ressource, où est-ce que la ressource est située dans la région ? Mais également les dynamiques de plantation, c'est-à-dire que est-ce que depuis quelques années, on est sur une augmentation des plantations ou au contraire une diminution. Et également, donc, comme on a pu le dire là, sur les acteurs, donc je les interroge, notamment les transformateurs, pour savoir l'usage du bois, qu'est-ce qu'ils en font, quelles sont les contraintes qu'ils ont, et éventuellement, ils sont inquiets pour l'avenir vis-à-vis des baisses de plantation, comment ils comptent s'adapter, ce genre de réflexion.
Est-ce que vous voulez nous en dire plus sur ces différents métiers autour du bois ? Donc vous avez cité les transformateurs, mais il y a peut-être aussi les pépiniéristes.
Oui, en effet, la filière forêt-bois, on va dire qu'on peut la classer en quatre compartiments. J'ai envie de dire, on a un premier qui va être la gestion. Donc on va avoir les pépiniéristes, les planteurs, les populiculteurs. On va avoir, par exemple, les exploitants, ceux qui sont chargés des travaux forestiers, donc tous ceux qui sont en gestion de la forêt. jusqu'à ce qu'il soit exploité. On va ensuite avoir les transformateurs, donc la première transformation, la deuxième transformation. On va ensuite avoir la commercialisation, donc par les marchés. Et enfin, on va avoir des acteurs dans le recyclage, la revalorisation du bois.
Et alors, qu'est-ce que vous avez pu mettre en évidence pour le moment avec vos questionnaires ?
Bah, principalement, donc, moi, c'est sur les transformateurs que je me suis intéressé. Donc, ce qu'on a pu voir, c'est que ceux qui travaillaient, donc, notamment l'usage du peupier sur la caisse en bois, donc des secteurs comme ça, c'est des secteurs qui sont quand même en difficulté, et qui sont inquiets de la baisse des plantations de peupliers. Et par exemple, pour, je ne sais pas si on peut citer l'acteur...
Peut-être pas le nom d'entreprise.
Il y a un acteur qui travaille avec la fibre de bois, donc qui est quand même une ressource qui n'est pas beaucoup exploitée dans la région et même en France. Et ça, par exemple, c'était un acteur différent des autres qui nous disait que justement, cette ressource, il n'avait pas beaucoup de concurrence avec les autres au niveau du rachat de la partie du peupier de l'arbre qui est nécessaire. Et du coup, que eux, c'était un secteur qui était amené à se développer comparé aux autres. Donc en fonction du produit et de l'usage qu'on fait du bois, on va avoir des inquiétudes différentes en fonction des acteurs.
Mais ça veut dire qu'il y a quand même une personne positive, enfin qui a dit des choses positives dans votre...
Oui, au début, on va dire que les premiers entretiens que j'ai faits, je me suis dit « tout le monde est inquiet, ça sent pas bon ». Puis au final, récemment, j'ai fait cet entretien qui me disait « non, justement, nous, on est plutôt confiants pour l'avenir, on est amené à se développer, que ce soit en région, au national, ils nous ont même dit à l'international, donc des belles perspectives pour certains. Mais c'est pas le cas pour tout le monde, malheureusement.
Et alors, comment vous allez peut-être continuer ce travail ? Est-ce qu'il y a peut-être d'autres personnes, d'autres professionnels qui mériteraient, à votre sens, d'être interrogés ?
Oui, j'ai envie de dire tous les acteurs de la filière méritent d'être interrogés. Mais les transformateurs, c'est un peu plus intéressant parce que c'est, on va dire, dans la filière forêt-bois, c'est là où on a un gros manque. On a un manque de transformateurs dans la région. On n'en a pas beaucoup qui sont là pour exploiter le peupier et le pin maritime, puisque beaucoup de ce bois va partir hors région pour être exploité ailleurs. Et du coup, c'est intéressant de s'interroger les transformateurs parce qu'ils sont au nombre de 8 sur le peupier et le pin maritime, donc c'est plus facile de les cerner, de les interroger. Mais en effet, par exemple, interroger un acteur qui va être sur le recyclage du bois, des acteurs qui vont travailler sur la gestion, même tout simplement interroger des planteurs, des populiculteurs qui vont dire « nous, depuis quelques années, on plante plus, mais ces dernières années, c'était difficile. » De voir si le pin maritime, les peupiers, on est avec par exemple des planteurs qui vont dire « on plante plus, donc on va pouvoir dire on est sur une dynamique positive, on va avoir plus de bois dans les années à venir. » Enfin, tous les acteurs sont bons à interroger.
Est-ce qu'il y a des considérations d'ordre écologique ou climatique chez ces professionnels ?
On va dire oui, ils prennent tous, ils s'engagent, ils en sont conscients, j'ai envie de dire, cet aspect-là, mais c'est pas... Enfin, c'est quelque chose vraiment que tout le monde a en tête et ils en sont conscients.
Voilà, je vous propose de faire une seconde pause musicale avant de poursuivre nos échanges. Et nous allons retourner à nouveau en Haïti. On va écouter Toto Bicinthe et on se retrouve tout de suite après dans La Méridienne sur Radio Campus Tour.
Mwen malade m'kouche, m'ba sa levey, bal mon an ouy, m'ba moun isito, m'gyele m'bwende. Mwen malade bal mon an, m'gyele m'brele. Gade malade bal mon an, m'gyele m'brele, bal mon an ouy. Ma munisito, ngere lembrale. Oh Seigneur, la mise est pas douce, agoré.
Merci Toto Bissante pour cette belle musique sur Radio Campus Tour. Vous écoutez La Méridienne. Donc on en sait plus sur la filière bois et sur les exploitants en termes de peupliers. Pardon si les termes ne sont pas tout à fait exacts. Mais est-ce qu'il y a malgré tout des contraintes particulières sur l'implantation d'une forêt de peupliers ? Donc j'imagine qu'on ne peut pas installer des peupliers n'importe où.
Effectivement, donc déjà la première contrainte, ça va être les sols. On va effectivement, il faut un certain type de sol, donc plutôt des sols humides, parce que le peuplier a besoin d'une certaine humidité pour pouvoir se développer. Donc c'est pour ça qu'on ne retrouve des peupliers que dans les vallées. On n'en trouvera pas sur les plateaux, ou alors s'il y a à proximité une source d'eau pour les alimenter. L'autre contrainte, ça peut être également des contraintes réglementaires. Il y a certaines communes qui ont pu avoir des positions, enfin qui ont souhaité limiter un peu l'essor des peupliers au moment où on était en période d'augmentation des surfaces. Hein. Alors c'était plutôt dans les années 1990. Aujourd'hui, on évoquait le fait que c'était plutôt en recul. Alexis le soulignait, même si là, ça tend à repartir. Hein, ça, il y a des évolutions. Hein. Donc ça peut être quand même des contraintes réglementaires. Hein, une commune qui souhaite limiter ces plantations, soit le plan local d'urbanisme, hein, par l'intermédiaire également de réglementation sur les boisements. Ça peut être aussi en lien avec le risque d'inondation. On peut avoir des contraintes qui se mettent en place. Pour le peuplier, pour le pin maritime, c'est pareil, on va pas le planter n'importe où. On le plante vraiment là où on peut pas planter autre chose, hein, sur des sols plutôt pauvres. C'est des surfaces qui restent très très limitées dans la région Centre-Val de Loire.
Alors du coup, entre plan d'occupation des sols, plan local d'urbanisme, zone inondable, en fait, qui décide, en fait, qui arbitre les choses? Est-ce que c'est le politique? Est-ce que c'est les habitants, les associations? Comment ça se passe?
Je dirais que c'est d'abord le propriétaire. C'est lui qui décide de ce qu'il va planter sur sa parcelle. Alors, il va le faire en étant conseillé. Alors, si c'est un propriétaire privé, ce qui donc représente 87% des forêts dans la région Centre-Val de Loire, si je ne me trompe pas. Donc il va le faire soit par rapport à ses connaissances qu'il a de ses terres, hein, parce que ça peut être des plantations qui avaient été faites de longue date et donc il poursuit. Mais il va également prendre en compte les conseils, par exemple, du CRPF, que j'évoquais précédemment, donc du Centre Régional de la Propriété Forestière, qui est là pour conseiller les propriétaires forestiers dans le choix des essences qu'ils vont planter. Il y a aussi des experts forestiers qui sont là aussi pour conseiller les propriétaires. Parce que même pour un peuplier, par exemple, en fait, il existe toute une diversité de cultivars. On appelle ça des cultivars, hein, donc des variétés différentes de peupliers. Donc certains vont être plus adaptés que d'autres à des sols particuliers.
Et alors, sauver la planète en plantant des peupliers, c'est une fausse bonne idée?
Alors, effectivement, c'est quelque chose qui se développe beaucoup, les plantations pour pouvoir séquestrer le carbone et limiter ainsi le changement climatique. C'est aussi ça l'argument en faveur des plantations forestières. Alors là, on est sur des plantations monospécifiques à croissance rapide. C'est pas le cas de toutes les plantations. On a aussi des plantations avec des espèces locales, donc qui sont aussi à privilégier. Là, le peuplier, le pin maritime, l'avantage, c'est que ça pousse vite, ça permet de fournir du bois. C'est d'abord des forêts, je dirais, de production. C'est pour répondre à une demande en bois qui, comme on a pu voir à travers les propos d'Alexis, cette demande, elle est quand même là. Il y a des transformateurs qui sont optimistes parce qu'il y a une demande croissante en bois. Faut pas oublier le fait que la forêt, elle permet aussi elle offre aussi des ressources renouvelables. En l'occurrence, pour ce qui est du peuplier, aujourd'hui, on en fait du contreplaqué. Ce qui permet d'éviter d'importer du bois tropical, puisqu'avant on faisait le contreplaqué avec de l'ecoumé, qui est un bois tropical. Ça permet également de remplacer des emballages plastiques. Aujourd'hui, on fait des emballages en bois de peuplier. Donc voilà, si on veut se servir de ces ressources-là, forcément, il faut planter du peuplier. Pour autant, et même la filière est clair sur ce point, il ne s'agit pas de mettre du peuplier partout, bien évidemment. C'était un peu la crainte quand il y a eu le grand essor des peupliers, c'est qu'il y en ait partout. Là, pas du tout. Mais c'est, de toute façon, les peupleraies, elles sont assez dispersées sur le territoire. C'est ce que soulignait tout à l'heure Arthur. Hein. Voilà, on a des petites parcelles disséminées entre des prairies. Et de toute façon, on ne peut pas en planter partout parce que les sols ne sont pas adaptés. Mais voilà, ça peut. C'est une solution, ce n'est pas la seule. Comme toujours, en fait, hein, il faut une diversité de solutions. Donc, avoir un petit peu de peuplier, avoir un petit peu de pin maritime, mais aussi avoir une multitude d'espèces plantées ou qui se développent aussi spontanément.
Alors, sur cette idée aussi que le peuplier stocke le carbone, si c'est du bois qui est voué à être coupé, c'est-à-dire qu'alors que le carbone s'échappe à nouveau?
Tout à fait, exactement. Ça, c'est une problématique. Donc, effectivement, donc, le peuplier... Il a une croissance rapide, donc il va, pendant toute sa croissance, il va stocker beaucoup de carbone. Mais au moment de l'exploitation, effectivement, soit le carbone... Enfin, alors, si on brûle le bois, le carbone, il repart. Par contre, si on en fait un usage en tant que bois d'œuvre, là, par contre, on a du carbone qui reste stocké beaucoup plus durablement. Donc, tout dépend de l'usage aussi que l'on fait de ce bois.
Donc, c'est-à-dire qu'il va falloir trouver autre chose pour réduire toutes les émissions que de planter des arbres.
Tout à fait, c'est une solution qui permet d'atténuer un petit peu, mais ce n'est pas la solution, même si aujourd'hui, hein, on a effectivement un marché du carbone qui se met en place avec des propriétaires forestiers qui vont donc du coup vendre ce carbone séquestré à des entreprises qui, elles, vont à l'inverse en émettre pour leur permettre d'être neutres en carbone. C'est une solution, mais ce n'est forcément pas la seule solution. Il faut aussi réduire d'une autre façon les émissions de gaz à effet de serre.
Pardon, est-ce que vous pouvez préciser comment ça marche, cette idée de vendre du carbone séquestré à une entreprise ?
Alors en fait, on a donc c'est quelque chose qui se développe aujourd'hui. Donc c'est des entreprises qui du coup vont financer des travaux de plantation, donc qui vont ainsi aider les propriétaires forestiers dans leur plantation. Je crois que c'est estimé sur une période de 30 ans le carbone qui va être séquestré par l'arbre et qui va permettre à l'entreprise qui elle émet du carbone et bien de réduire d'autant son bilan carbone, quoi.
Eh bien, merci à vous. Ça y est, je perds ma voix. Cette émission va bientôt toucher à sa fin. Alors, je me tourne vers les étudiants qui sont ici sur le plateau. Est-ce que vous voudriez nous dire ce qu'il va advenir de vous après ce travail de recherche ? Comment vous allez poursuivre vos études ? Qu'est-ce qui va se passer pour l'un et l'autre ?
Déjà, normalement, on est censé, pour faire nos études, valider notre année et donc réussir notre mémoire. Et l'idée, c'est pour notre M2, c'est généralement de faire un apprentissage. Donc, c'est-à-dire que là, généralement, on est en période de recherche d'un contrat. Et l'idée, c'est justement d'en trouver un pour passer l'année prochaine en apprentissage, dans le but, si l'apprentissage est réussi, d'intégrer la structure dans laquelle on a fait notre apprentissage.
Et donc, vous allez tenter quoi comme...
Moi, je suis plus dans la recherche de postes en chargé de mission en environnement ou développement durable. Et donc... j'ai déjà un entretien de programmé, donc j'espère que ça se passera bien.
Voilà, c'est tout ce qu'on vous souhaite, donc de votre côté.
Et comme Alexis, là, il reste encore un mois et demi pour finir le mémoire, donc après les entretiens, la rédaction du mémoire. Et puis pour l'année prochaine, alternance également, je l'espère. Il faut que j'en trouve une, je ne sais pas dans quel domaine exactement. L'avantage de ce mémoire, c'est aussi que ça se donne des poursuites d'études, et donc je me disais pourquoi pas travailler dans les espaces forestiers, voire avec l'ONF, des organismes publics qui sont chargés de missions écologiques également. Voilà.
Je vous vois sourire, Amélie Robert, en entendant vos étudiants plein d'idées.
Tout à fait. Moi, je trouve que c'est vraiment une bonne expérience, ce mémoire, parce que c'est l'occasion pour eux de mettre en place une méthodologie, et puis c'est des méthodes de travail qu'ils vont après garder par la suite. Donc c'est une initiation à la recherche, mais qui en fait leur permet d'apprendre plein de choses qu'ils vont pouvoir ensuite remobiliser sur d'autres sujets dans leur carrière professionnelle aussi. Donc c'est vraiment satisfaisant de voir comment ils se sont accaparés aussi leur sujet. Ça fait vraiment plaisir.
Alors peut-être voulez-vous nous rappeler quelques liens utiles si on a envie peut-être d'en savoir plus sur ce projet Planctaclim. Est-ce que vous voulez nous redonner des liens peut-être sur le laboratoire CITER pour qu'on puisse...
Oui, vous pouvez aller voir sur le projet Planctaclim, il y a un site internet qui est hébergé par l'Université de Tours, donc c'est planctaclim.unif-tours.fr, où là, vous avez l'ensemble des partenaires impliqués, les différents axes de recherche, les différentes activités qui sont conduites dans le cadre du projet, les ressources, donc on y retrouvera prochainement les mémoires d'Arthur et Alexis. Après, sinon, pour avoir des informations sur l'UMR CITER, donc il y a aussi un site internet dédié où vous pouvez retrouver les différentes recherches qui sont conduites dans le cadre de ce laboratoire.
Bien, merci à tous les trois. On ne manquera pas de mettre en lien de ce podcast ce que vous venez de nous indiquer. Alors, le mot de la fin, est-ce que vous voulez dire quelque chose pour conclure, je sais pas, est-ce qu'il y a une ressource, un livre que vous avez lu récemment sur vos sujets qui vous semble intéressant, que vous aimeriez recommander à nos auditeurs, ou un site intéressant dans le domaine de la géographie ?
Moi qui travaille tout sur le peuplier, mais pas tellement de livres, mais des auteurs sur le peuplier, Paul Arnoux et Sophie Le Floch. Je crois que ça a fait toute ma bibliographie, donc voilà.
Oui, également, il y a... Et donc à Cité Arthur, puis même tout simplement les ouvrages de Madame Robert dont je me suis servi, qui ont permis d'établir les bases, j'ai envie de dire.
Merci beaucoup. Voilà, à retrouver dans toutes les bonnes BU. Eh bien, il me reste à vous souhaiter à toutes et à tous la meilleure journée possible à l'écoute de nos programmes. Cette émission est à retrouver sur notre site radiocampustour.com. Elle sera également rediffusée aujourd'hui même à 17h. Voilà, fin de cette émission et bonne journée à tous.
Merci beaucoup.
Merci à vous. Merci.